Je vous invite à ce que nous commencions par nous poser un moment. À bien nous poser confortablement. Pouvez-vous étirer un petit peu si vous en éprouvez le besoin. Ça fait toujours du bien de s'étirer, éventuellement de s'ébrouer un petit peu. Voilà. De se dénouer, de se délier. Voilà. Bien assis, dans la sensation de notre corps, dans la pleine sensation de notre corps, détendu, relâché, sentir l'inspiration. Sentir l'expiration, sentir la respiration, sentir que ça respire. Ça respire. Le souffle de vie qui m'anime respire naturellement. Et nous pouvons être présents à cette respiration en suivant l'inspiration, l'expiration. Une attention, une présence suivie à la sensation de la respiration en nous laissant aller en celle-ci, en nous relâchant en celle-ci, simplement et naturellement. En cet état, nous pouvons avoir les yeux ouverts, si ce n'était déjà le cas, et sans regarder quoi que ce soit de particulier, laisser nos yeux détendus dans un regard large, ouvert, une vision globale, une vision ouverte. En laquelle on s'abandonne dans un champ visuel, un champ sensoriel ouvert, tout ouvert. Et ainsi, ça respire naturellement. Nous restons tranquilles, nous laissons être tel que c'est dans la sensation du souffle, du corps et de l'environnement global, tout ouvert. Donc ainsi, dans cette expérience, nous pouvons toucher quelque chose de la nature de ce que l'on nomme la pleine présence. Le thème de notre réunion se nomme la transmission. Si l'on parle de transmission, la première question, la transmission de quoi? Il y a beaucoup de transmissions. Il y a des transmissions et des retransmissions. Il y a deux grands types de transmission qui sont les transmissions de données conceptuelles et les transmissions d'expérience. Transmission de données conceptuelles, cela se fait par des livres ou aujourd'hui, cela se fait par le réseau. Transmission database, transmission de données. La transmission dont à laquelle nous nous intéressons n'est pas une transmission d'information, mais une transmission d'expérience. Non pas une transmission de l'ordre d'un avoir d'information, mais d'une expérience d'être. La transmission à laquelle nous nous intéressons et qui est importante parce qu'elle a la capacité de nous transformer, de transformer notre vie, de transformer ce que nous sommes, et la transmission de l'expérience libératrice. La transmission de l'éveil, la transmission de la libération. De la libération de quoi? De la libération du mal-être, du malaise, des illusions et des passions. Cette voie de la libération se nomme en sanskrit dharma, terme que l'on a rendu par bouddhisme, qui est un, j'oserais dire, un vilain néologisme qui a été fabriqué par des bouddhologues sorbonnards aux alentours de 1825. Alors que le dharma, la voie de la libération, remonte à des temps immémoriaux qui se perdent dans la nuit des temps. Le Bouddha Sakyamuni, il y a 2500 ans, n'ayant, selon ses propres dires, fait que rouvrir une voie ancienne. Donc, dharma, la voie de la libération, est l'enseignement de la réalité. La question est de savoir c'est quelle réalité. Il y a différents niveaux de réalité. Il y a une réalité relative, une réalité conceptuelle. Il y a une réalité directe, immédiate, absolue, non dualiste, ultime. Dans la voie du dharma, l'on considère qu'il y a deux moyens de connaissance qui sont justes, deux moyens de connaissance valides pour justement comprendre la réalité. C'est deux, il n'en est que deux, moyens de connaissance valides sont pour le premier la raison. La raison, c'est-à-dire la logique, un raisonnement valide avec une inférence juste, une déduction. Cette connaissance logique se développe et aujourd'hui continue à se développer dans ce que l'on nomme les sciences, la science, la démarche scientifique, avec une dimension logique, mathématique, physique, appliquée. Et c'est cette raison et cette logique et cette approche scientifique qui a fait que nous sommes ce que nous sommes ici aujourd'hui, pour le meilleur et pour le pire. Mais l'homme est un animal mental et le mental discursif avec sa faculté de conception, de conceptualisation et ses dextérités logiques, déductives, inductives, de raisonnement, etc., sont notre spécificité. C'est ce qui a fait que nous sommes les plus smart sur la planète et aussi que nous sommes arrivés au point où nous avons quasiment bousillé notre planète. Ce qui n'est pas forcément un critère de smartitude, si l'on peut dire. Mais c'est une autre discussion. Premier moyen de connaissance valide est ainsi la logique et la raison, qui est la connaissance valide au niveau relatif, au niveau conceptuel. Elle est nécessaire, elle est utile, elle fait ce que tout ce que nous avons fait, et c'est très bien. C'est très bien, mais la raison a des limites. Et dans la raison, on a toujours ses raisons, mais comment dire, on n'a jamais finalement que raison. La logique et la raison, dans ce qu'elles ont de plus fin et de plus avancé, peut comprendre les limites de la raison. La raison, dans la conception, est toujours dans la dualité. La limite de la raison est celle de la dualité et de l'observateur. C'est un problème et une question même de physique fondamentale. Depuis un certain nombre d'années, il y a des travaux qui sont conduits conjointement par des scientifiques et des, disons, pratiquants de ce que l'on nomme la méditation, nous y reviendrons, pour justement voir la frontière, les limites Et les interactions ce domaine d'exploration était développé particulièrement dans le Mine and Life Institute, qui fut fondé il y a maintenant, ouf, je crois que ça doit faire une vingtaine d'années, par un grand neuroscientifique, neurophénoménologue, Francesco Varela, avec le Dalai Lama. Beaucoup de choses ont été faites, c'était à Boston, autour du MIT, et des rencontres annuelles qui ont lieu là-bas, qui explorent justement les limites de la quête et de la recherche scientifique dans sa dimension conceptuelle et résonante. Le deuxième moyen de connaissance valide, puisque je vous disais qu'il y en a deux, est ce que l'on nomme l'expérience yogique immédiate. Donc il s'agit d'une expérience. Une expérience yogique, ce qui signifie que un yogi est une personne qui pratique le yoga. Le yoga dont il s'agit ici n'est pas le hatha yoga, n'est pas de la gymnastique. Ce n'est pas pour dire que le hatha yoga soit réductible à une gymnastique, mais le yoga dont il s'agit est une union. Yoga signifie union. Un yogi est une personne qui pratique l'union fondamentale, qui est l'union non duelle, l'union dans l'expérience de non-dualité, l'union dans une expérience de non-dualité, de participation qui se vit dans le retrait du mental conceptuel habituel. Donc, c'est là que se situe ce que l'on peut nommer l'immédiateté, la présence d'instantanéité, l'expérience de nowness. En français, nowness, immédiateté, c'est un peu lourd en français. Mais l'état de présence inconceptuel. Donc, c'est ce deuxième mode de connaissance valide qui, au niveau fondamental, est le plus important, car c'est dans celui-ci que se comprend la réalité essentielle, la réalité fondamentale de ce que je suis et de ce que je vis. Et si la quête, qui est le propos de la transmission, eh bien, que ce soit en Orient ou en Occident, le « sache ce que tu es, connais-toi toi-même » socratique, ou « réalise ta nature, connais la nature de ton esprit » du Bouddha, cette connaissance qui n'est pas du domaine de la philosophie, de la métaphysique ou de la théologie, ou qui n'est pas du domaine tout simplement du mental et des conceptions, l'expérience profonde, la connaissance profonde, libératrice, est une expérience. Et la transmission du Dharma est d'abord, surtout et fondamentalement, cette expérience libératrice. Elle s'appuie sur un discours, des explications, une communication langagière, verbale, conceptuelle, sont nécessaires, sont indispensables, comme maintenant. Mais le discours n'est pas une fin en soi. Le discours montre, pointe, et comme un doigt qui indique un signifiant qui pointe vers un signifié, qui est cette expérience de non-conception. Et suivant l'adage bien connu, il n'est que les sots qui prennent le doigt qui montre la lune pour la lune. Il n'est que les sots qui prennent le signifiant pour le signifié, qui prennent le discours pour l'expérience qu'il propose. Donc, la transmission du Dharma, l'enseignement de réalité, a, correspondant à ces deux modes de connaissance valides, deux dimensions, ce que l'on appelle la transmission du Dharma scripturaire et la transmission du Dharma de la réalisation. C'est une présentation traditionnelle. Dharma scripturaire, ce sont les écrits, les paroles, les indications, et le dharma de la réalisation, c'est l'expérience. Et cette expérience qui dans sa nature est l'expérience de pleine présence aconceptuelle. Donc, comment cette transmission peut-elle opérer? De ce qui vient d'être dit, vous comprenez que livres et données conceptuelles sont utiles, mais ne sont pas suffisantes, et même peuvent être contre-productive. Un gros écueil est de prendre le discours pour la réalité. Et si vous êtes un philosophe, si vous êtes un psychologue, si vous êtes un théologien, un métaphysicien ou un intellectuel, ou je ne sais, et que vous avez quelques dextérité rhétorique et articulation dans le discours, il arrive que l'on prenne le discours pour l'expérience. À ce moment-là, l'on est incurable. La pratique peut guérir de toutes les conceptions, mais ceux qui conceptualisent la pratique sont incurables. Il y a une récupération conceptuelle de la pratique de libération des concepts. Petit moment de pause, suspension. Suspension de la pensée, suspension de soi, suspense. Le problème et que notre esprit ne s'arrête jamais. Je n'arrête pas de penser. Mon esprit ne s'arrête jamais. Et plus je pense, plus je suis. Et comme il se pourrait que j'ai peur de ne pas être ou de ne plus être, j'entretiens mon être par la pensée. Dans l'expérience libératrice consiste à transmettre le moyen ou les moyens de se dépenser. De se dépenser. Ce qui peut avoir plusieurs sens. De se libérer de l'aliénation, de la pensée discursive, et aussi de se dépenser comme quand on se dépense physiquement, on dépense son être, on dépense son ego. Cette pratique de du dépenser une pratique de déconstruction, de dissolution. Qui consiste à apprendre à son mental à rester tranquille pour commencer. On ne peut pas imposer à son mental de rester tranquille. Et si l'on essaye de le faire, c'est contre-productif. Rester tranquille dans le mental s'accomplit en laissant son mental tranquille. Et la meilleure façon de laisser son mental tranquille est d'entrer dans l'expérience des sens. Animaux hypermentaux que nous sommes tout le temps en train de gamberger, de batifoler, de fantasmer, de ressasser le passé, d'anticiper l'avenir dans notre mental. Plutôt que cet investissement mental, entrons dans l'essence, hein? La présence des sens. L'on apprend ainsi la présence corporelle, la présence sensorielle, la présence kinesthésique, la présence du senti, du corps. C'est ce qu'on appelle la pleine présence du corps. On apprend aussi particulièrement la pleine présence du souffle, la sensation de la respiration, comme nous l'avons tout à l'heure un tout petit peu expérimenté. Aussi, l'ouverture des sens lointains que sont la vue, l'ouïe, champ sensoriel, visuel ouvert, champ sonore, auditif ouvert. Et l'on reste au repos dans cette sensorialité ouverte, dans cette sensitivité. Effectivement, on pratique même A. Et A est le son fondamental. C'est le premier son. Ah, re. Ah, ma. Ah, pa. Dans des langues anciennes comme le sanskrit ou le tibétain, le A est aussi la vocalisation fondamentale. Toutes les lettres de l'alphabet sont fondamentalement vocalisées en A, et ce n'est que secondairement qu'il est des vocalisations I, U, E, O. L'alphabet sanskrit ou tibétain, c'est ka 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 ga nga cha 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 ja nya ta 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 da na pa 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 ba ma cha 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 za wa ra la cha sa a. C'est tout a. Donc, et a, c'est aussi comme dans un soupir, on se lâche. Ah, on se lâche. Relâche dans l'ouvert. Ah. En se détendant avec un sourire aussi qui vient naturellement. Ah. Ah. Ici, nous avons cette lettre qui est au milieu de ce cercle bleu, c'est justement un A. Et A est le symbole de l'état premier. A. Comme un absolu. Ou comme amour. Ah. C'est pratique même. Dans le dialogue intertradition, par exemple avec nos amis musulmans, ils disent Allah, absolu. Juste le début, ça nous suffit. Ah. Non. La transmission est seule. De l'expérience absolue qui est l'expérience de non-conception ou de la transcendance, si on veut employer ce genre de mots, de la conception. Et cette expérience ne peut se découvrir qu'en se dépensant ou dans une forme de dissolution radicale de l'être ou de l'ego qui subsiste dans la pensée conceptuelle. Il est un passage au noir, si l'on dit ainsi, un passage dans j'hésite un peu à employer cette terminologie parce que elle est connotée, mais il y a une mort et une renaissance. Une mort de la conception qui permet de naître à la lumière. La conception est un obscurcissement. La conception est un voile obscurcissant. Et la transmission, ainsi, demande un engagement de soi, de tout son être. Et une détermination, une résolution, une motivation entière. C'est une quête, c'est la quête humaine, essentielle, fondamentale, qui a été chantée dans maintes mythologies. Mais quête de la réalité ultime, quête de l'absolu, expérience qui, justement, se situe, demeure dans la non-conception. Lorsque l'on parle de méditation ou mieux de contemplation, de quoi s'agit-il? Il s'agit de l'état de non-conception ou de la pleine présence aconceptuelle. Pleine présence aconceptuelle. L'état de présence non-conceptuelle. Donc, voilà ce qui est transmis, et cette transmission demande un contact, une relation interpersonnelle. Ce n'est pas de l'information conceptuelle que l'on puisse passer dans un livre ou dans un resource center. L'expérience a besoin d'être vécu et d'être inspiré, d'être communiqué. Donc, il y a dans la transmission ainsi la nécessité d'une dynamique interpersonnelle qui se développe dans ce que l'on nomme une société ou une communauté, un sangha, c'est le terme sanskrit traditionnel. Nous en avons parlé aujourd'hui, ce matin, hier soir, avec la source de la transmission, l'inspiration et la pratique. Le propre de la pratique qui constitue le cœur de la transmission est une assise. Il y a la pratique assise et la pratique en action. La pratique assise pour sentir, découvrir la pleine présence sensorielle, la pleine présence aconceptuelle assis, comme maintenant. Et cette expérience ainsi découverte, sentie, ensuite s'intègre à notre vie quotidienne, se cultive, l'on s'y entraîne, c'est l'entraînement dans la vie quotidienne, l'entraînement à la pleine présence, en toutes les circonstances de la vie quotidienne. C'est ce que l'on nomme aussi la méditation en action. Méditation est synonyme d'entraînement. Et comme son cœur est non conceptuel, ça n'est pas une méditation au sens du dictionnaire français qui est une considération ou une réflexion. Donc, plutôt que méditation, mieux vaut dire un entraînement à la pleine présence. Donc la transmission ainsi à des moyens, cette pratique, expérience, qui se développe dans un cadre qui pose les conditions d'une passation dans l'exemple interpersonnel et dans le soutien aussi communautaire ou collectif de personnes qui ont cette motivation de cœur et cette aspiration.